Je donne maintenant la parole à son Excellence Nicholas Clegg, vice-premier ministre du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Mr. President.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours de ma vie, le monde a été découpé et étiqueté de bien de manières. Est, Ouest, communisme, capitalisme, Nord-Sud, chrétien, musulman, développé, en développement, etc. Mais alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, la ligne de démarcation la plus importante n'est pas une ligne géographique ou idéologique ou religieuse ou une ligne séparant riches et pauvres. Il s'agit de la division entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées. Les sociétés ouvertes choisissent la démocratie et la liberté chez elles et l'engagement et la responsabilité à l'étranger. Les sociétés fermées suppriment la liberté de ses citoyens, agissent sous couvert et se retirent de la scène internationale. Soyons honnêtes, les forces de l'isolationnisme ont gagné du terrain au cours des dernières années. Décrier la démocratie est maintenant plus simple, en tout cas ça semble être le cas. Les États autoritaires montrent de manière enthousiaste les conséquences négatives de la crise financière de 2008, preuve, disent-ils, d'un modèle occidental failli. Ils sont vengés, ou en tout cas ils se sentent vengés, leurs citoyens sont moins libres, mais ils ont des taux de croissance plus importants que l'Occident. Simultanément, dans beaucoup des États touchés par la crise financière, l'austérité a donné lieu à une période d'introspection. On a eu plus tendance à se replier sur soi que à s'ouvrir aux autres. Il y a eu une crise de confiance qui a menacé de s'établir dans différentes parties du monde. Ce n'est pas surprenant que certains disent que la démocratie libérale est révolue et que le système multilatéral est désormais obsolète. Mais ceux qui affirment cela se trompent. Ils tirent des conclusions erronées à la suite d'événements récents. La véritable leçon de ces cinq dernières années, ça a été la résilience remarquable des sociétés ouvertes et le besoin criant de coopération internationale dans notre monde. Les démocraties libérales en Europe et de l'autre côté de l'Atlantique ont connu des difficultés économiques très importantes. La zone euro n'a pas disparu, comme beaucoup le prédisaient. La catastrophe a été évitée et la crise des dettes souveraines a été gérée. En Europe, nous avons maintenu la stabilité alors qu'il y avait de grandes difficultés parce que, pour leur grande majorité, les citoyens ont exprimé leur frustration de manière pacifique au travers des urnes. Et lorsqu'il y a eu des troubles, des démocraties arrivées à maturité ont géré ces troubles de manière réussie. Même si les récentes crises ont révélé les faiblesses des économies occidentales, elles ont également mis en avant la force des sociétés ouvertes, la capacité à évoluer, à s'adapter. Les sociétés ouvertes ne craignent pas le changement. Et au cours du XXIe siècle, cette ouverture à la réforme est essentielle pour une stabilité et une réussite durable. La démocratie, la liberté d'expression, la participation, l'égalité devant la loi, le droit à manifester pacifiquement, le droit à l'éducation, au travail. Il ne s'agit pas de valeurs occidentales. Il s'agit de libertés politiques et économiques réclamées par les citoyens partout. Et elles prennent de l'ampleur partout dans le monde. Les gouvernements qui ignorent cette demande perdront cette bataille. La démocratie n'a pas échoué en Égypte. Des élections ont échoué. L'Égypte doit maintenant se réengager sur la voie d'une démocratie inclusive. L'envie de démocratie est toujours aussi forte chez les personnes qui ont fêté l'avènement de la démocratie sur la place Tahrir. En Libye, le Congrès national général travaille à l'organisation d'élections au début de 2014. Le Maroc a une nouvelle constitution et pour la première fois un premier ministre élu par le Parlement. Bien qu'il reste des défis difficiles à relever, le Yémen a choisi de s'engager sur la voie de la réconciliation, du dialogue et de la démocratie plutôt que sur la voie de la violence. La Tunisie construit également une nouvelle démocratie avec une croissance économique. Il y aura bientôt une nouvelle constitution et des élections seront organisées en 2014. Oui, Monsieur le Président, ces pays connaîtront sans doute d'autres troubles. Une démocratie qui fonctionne bien, cela ne se construit pas du jour au lendemain, ne peut pas être exportée de l'Occident ou être parachutée. C'est ce que nous avons appris au travers de nos échecs par le passé. Développer une culture, des institutions, c'est nécessaire. L'état de droit, une vie politique où le pluralisme règne, c'est nécessaire pour tous ces pays et cela requiert également une patience stratégique de la part du reste du monde. Même si la route vers la démocratie est semée d'embûches, le cap, lui, est bien clair. Partout où vous regardez, vous trouverez des gens qui luttent contre la discrimination, pour l'égalité, contre l'oppression et pour la liberté. Une vague d'ouverture a fait son apparition. Elle va au-delà des frontières, des cultures, des hommes et des femmes, quelle que soit leur couleur ou leur croyance, veulent davantage d'opportunités et ils veulent être entendus. Et le Royaume-Uni sera toujours du côté de ceux qui soutiennent la liberté politique et l'autonomisation politique. Nous ne ferons pas marche arrière. Il n'y aura pas de retraite. Nous résisterons à toute incitation à tourner notre dos au reste du monde. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, nous aidons les États à construire la démocratie. Nous aidons les responsables libyens à superviser des élections justes ou nous soutenons des médias libres en formant des journalistes au Maroc. Tels sont les éléments fondamentaux d'une transition démocratique. Nous aidons également les économies de ces pays au travers notamment du partenariat de Deauville du G8 afin de contribuer au commerce, aux investissements dans cette région, en aidant les petites et moyennes entreprises et surtout en garantissant une plus grande participation des femmes. Et nous avons constamment dit qu'il fallait que les actifs volés par les anciens régimes dans ces pays reviennent dans ces pays. En Syrie, notre priorité, c'est une solution politique. Les bases d'un tel accord ont fait l'objet d'un accord à Genève l'année dernière, sur la base d'un consentement mutuel avec un organe de gouvernance transitoire doté de pouvoirs exécutifs. Nous sommes en contact avec nos partenaires pour organiser une deuxième conférence à Genève le plus tôt possible. Aucune solution politique ne pourra être trouvée sans l'opposition syrienne modérée. Nous reconnaissons la coalition nationale syrienne comme représentant légitime du peuple syrien. Et nous reconnaissons leur engagement en faveur du processus de Genève et en faveur de la construction d'une Syrie séculaire, démocratique et pluraliste qui garantisse les droits de tous. S'agissant des armes chimiques en Syrie, le régime Assad a commis un crime de guerre au terme du droit humanitaire international le 21 août. En lançant une attaque chimique à grande échelle contre sa propre population. La première attaque de cette importance de ces 25 dernières années, 88 années après l'interdiction universelle de ces armes. Comme le président Obama l'a dit ici mardi, c'est une insulte à la logique de suggérer que ce régime n'est pas responsable de ce crime de guerre. La communauté internationale doit réagir et à l'unisson. C'est la raison pour laquelle nous espérons pouvoir adopter plus tard aujourd'hui une résolution du Conseil de sécurité établissant des obligations juridiquement contraignantes pour le régime syrien pour l'extraction et la destruction du grand arsenal chimique syrien. Mercredi, j'ai annoncé que le Royaume-Uni fournirait 160 millions de dollars de plus au soutien humanitaire en faveur de la population syrienne, ce qui amène le financement britannique à 800 millions de dollars. C'est notre effort le plus important face à une crise humanitaire, surtout pour aider les enfants piégés par ce conflit. Le monde a permis de débloquer 1 milliard de dollars d'aide humanitaire ce mois-ci. Mais j'invite toutes les parties en Syrie à permettre aux agences humanitaires de travailler sans les menacer, sans qu'un accès humanitaire ne soit permis. Aucune somme d'argent ne permettra de soulager les souffrances du peuple syrien. Monsieur le Président, Je salue les observations du président Rouhani prononcées ce mardi concernant les discussions entre l'Iran et le reste du monde et son volonté de reprendre les discussions sur le dossier nucléaire. Je suis heureux que les négociations sur le programme nucléaire de l'Iran reprendront au mois d'octobre. Et si les déclarations de l'Iran sont suivies par des actions concrètes, alors il sera véritablement possible de progresser sur la voie de la résolution de ce dossier. Nous souhaitons également une approche plus constructive afin que l'Iran nous aide à régler la crise en Syrie. Et le gouvernement britannique est prêt à améliorer ses relations de manière progressive et sur une base réciproque. Bien sûr, ce qui transformerait fondamentalement le Moyen-Orient, ce serait un accord avec deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, un accord fondé sur les frontières de 1967, avec des échanges de territoires permettant l'établissement d'un État palestinien viable qui vit aux côtés et de manière pacifique d'Israël. Une Palestine reconnue universellement aux côtés d'un État d'Israël reconnu universellement. Je salue les efforts du secrétaire d'État Kerry et je salue également le Premier ministre Netanyahou et le président Abbas qui ont permis la reprise des négociations de paix. J'espère vraiment que toutes les parties feront les efforts nécessaires pour parvenir à un accord. J'espère également qu'il y aura un gel des colonies. La communauté internationale doit soutenir les différentes parties, surtout lorsque des décisions difficiles doivent être prises en faveur d'une paix durable et le Royaume-Uni est prêt à jouer son rôle. Monsieur le Président, alors que nous préparons notre départ d'Afghanistan, le gouvernement britannique continue de travailler avec le gouvernement afghan pour garantir une transition couronnée de succès. Les forces de sécurité nationale afghanes sont maintenant en chef de file. Elles sont de plus en plus confiantes et ont davantage de capacités. C'est une réussite importante. Au Royaume-Uni, nous reconnaissons les grands défis qui sont encore à relever pour l'Afghanistan, mais nous pensons vraiment que nous pouvons faire preuve d'optimisme concernant l'avenir à long terme du pays. Il s'agit d'une époque cruciale pour les hommes, les femmes et les enfants afghans, alors qu'ils préparent des élections en 2014 qui doivent être crédibles, transparentes et inclusives. Monsieur le Président, la pauvreté est bien évidemment une menace très importante pour la stabilité et les libertés, comme les conflits et l'oppression. Et malgré les difficultés financières qui sont les nôtres, le Royaume-Uni a atteint l'objectif de 0,7% du RNB en assistance au développement. Nous sommes le seul pays du G20 à y être parvenu. Après la crise économique mondiale, nous avons dit que nous n'assainirions pas nos finances sur le dos des plus pauvres dans le monde. Et nous avons tenu notre promesse. Lundi, nous avons annoncé que nous allions fournir 1,6 milliard de dollars au Fonds mondial pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cela représente 10% de la reconstitution du fonds, dans l'attente que d'autres nous rejoignent. Les femmes et les jeunes filles restent au cœur de notre programme pour le développement. Elles sont la clé de la croissance économique. Et donc, investir dans l'éducation des jeunes filles, c'est l'outil le plus efficace que nous pouvons utiliser pour briser le cycle de la pauvreté. Nous devons garantir l'égalité entre hommes et femmes, qui est autrement, nous contribuons aux violences à l'égard des femmes. Nous encourageons tous les États à adopter la déclaration en matière de prévention de la violence sexuelle dans les zones de conflit. Plus de 150 États se sont déjà engagés. Nous envoyons un message aux victimes de ces crimes odieux. Elles ne sont pas seules et les auteurs de ces crimes seront punis. Monsieur le Président, nous avons également utilisé notre présidence du G8 pour mettre l'accent sur trois domaines dans lesquels nous pouvons contribuer à la prospérité mondiale. Encourager le commerce, garantir davantage de transparence, afin que les nations en développement puissent bénéficier des ressources qui sont les leurs, lutter contre l'évasion fiscale et contre les niches fiscales. Nous venons d'entamer les travaux en la matière et nous sommes heureux de dire que les priorités du Royaume-Uni en matière fiscale et commerciale se reflètent dans les accords atteints par le G20, y compris concernant les mesures protectionnistes auxquelles nous Nous avons renoncé pour encore 2 ans jusqu'à la fin 2016 afin que les échanges commerciaux soient le plus libres possible. Monsieur le Président, que ce soit au sein du G8, du G20, de l'Union européenne, de l'OTAN, du Commonwealth ou en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, le Royaume-Uni continue d'être partie prenante, active et engagée dans le monde. Les problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes communs, par exemple le changement climatique. Le rapport de ce matin du GIEC confirme que les niveaux des océans augmentent déjà, que les glaces fondent plus rapidement que prévu. Ce rapport est une leçon claire pour tous ceux qui persistent encore à affirmer que le changement climatique dû à l'homme n'existe pas. Le Royaume-Uni continuera de limiter ses émissions. Nous avons donné plus de 6 milliards de dollars pour aider les pays en développement à en faire de même et à s'adapter aux changements environnementaux. Mais si nous voulons véritablement mettre fin aux effets dévastateurs du changement climatique, nous devons écouter les scientifiques et agir maintenant et ensemble. Nous saluons donc l'annonce par le secrétaire général d'un sommet l'année prochaine. Ce sera une étape importante pour l'ensemble des nations afin de se mettre d'accord en 2015 sur toute une série de mesures. Bien évidemment, nous sommes également tous frappés par le fléau du terrorisme, qu'il s'agit d'un soldat assassiné brutalement dans une rue de Londres ou des chalands innocents qui sont mitraillés dans un centre commercial de Nairobi. Nous sommes tous vulnérables. À la suite des événements récents à Nairobi, le gouvernement britannique travaille en étroite collaboration avec les gouvernements kényans, somaliens ainsi que d'autres pays de la région pour faire face à cette situation. Notre réponse au niveau mondial face au terrorisme doit être solide, intelligente et doit couvrir l'ensemble des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble et où cela fera une différence. Seuls, nous pouvons prendre des petites mesures, mais ensemble, nous pouvons faire des avancées particulièrement importantes. Ça a été très clair cette année lorsque nous avons signé le premier traité international sur les armes afin de mieux réglementer le commerce des armes. Le Royaume-Uni est fier du rôle qu'il a joué en la matière et nous invitons tous les pays qui n'ont pas encore fait à signer ce traité. Ce traité nous rappelle que s'il y a une volonté politique, nous pouvons parvenir à réaliser l'impensable. Et nous devrions nous montrer courageux et faire davantage. Les Nations unies ont beaucoup d'avantages, mais elles présentent également de graves défauts et ils doivent être pris en considération. Les Nations unies n'ont pas de meilleur ami que le Royaume-Uni, mais l'organisation ne reflète pas de manière adéquate le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le Conseil de sécurité doit être réformé. Il faut faire davantage de place au Conseil de sécurité. Autrement, cet organe sera un anachronisme, une relique d'un temps passé. Le Royaume-Uni continue de soutenir des sièges permanents pour le Brésil, l'Inde, l'Allemagne et le Japon, ainsi qu'une représentation permanente pour l'Afrique. Nous invitons tous les États parties à consentir les efforts nécessaires. Les meilleurs résultats engrangés sont obtenus lorsque nous travaillons ensemble et lorsque nous avons des objectifs ambitieux. C'est également important pour les pays dont les économies se sont largement transformées ces dernières années, ainsi que pour les puissances plus établies. Davantage d'influence signifie également davantage de responsabilité. Le monde est un endroit meilleur parce que le Brésil est maintenant chef de file en matière de lutte contre le déboisement, parce que le Mexique a inscrit dans son droit national la lutte contre le changement climatique, parce que la République de Corée est chef de file en matière de sécurité nucléaire. Mais il y a tellement de domaines dans lesquels nous devons travailler ensemble. Il faut un accord international pour limiter la bureaucratie aux frontières. C'est le sujet d'une réunion de l'OMC qui aura lieu à Bali au début du mois de décembre. Cela permettrait un élan économique d'environ un trillion de dollars. Nous travaillons au sein des Nations unies avec la société civile pour définir un programme de développement pour l'après 2015 encore plus ambitieux que les OMD. Il ne peut pas y avoir un objectif plus important que l'éradication de la pauvreté extrême. Dans ces dossiers ainsi que dans d'autres qui concernent l'ensemble des nations, nous sommes toujours plus forts ensemble que séparés. Maintenant, plus que jamais, Nous devons rejeter les forces isolationnistes. Nous devons défendre nos valeurs et nous tourner vers le monde. Monsieur le Président, c'est ce que le Royaume-Uni fera et nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui feront la même chose. Je vous remercie.